Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Tous les étés, depuis un demi-siècle maintenant, l'île de Gotland accueille l'événement politique suédois. C'est l'Almedalen, dans le petit bourg de Visby. L'ensemble des partis politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, y présentent leurs orientations, leurs programmes. Et dans les rues déambulent 40 000 visiteurs, mais aussi des patrons, des leaders syndicaux et associatifs qui ont fait tous le déplacement. Frédéric Faux s'est rendu donc à Visby pour assister à ce bouillonnant festival de la démocratie qui fête cette année donc son 50e anniversaire.
Bienvenue à Almedalen. Pour le Parti des Modérés, Ulf Kristersson.
Cette année, c'est Ulf Kristersson qui ouvre le bal de l'Almedalen. Pour le leader des Modérés, le plus grand parti de la droite suédoise, qui veut revenir au pouvoir après les élections de septembre, l'enjeu est d'importance. C'est ce qu'explique sa porte-parole, la députée Karin Enström.
Le but est d'annoncer des choses nouvelles tout en confirmant notre message principal. Comme cette année, il y a des élections, c'est encore plus nécessaire.
Mais Ulf Kristersson ne sera pas le seul à s'adresser aux 40 000 visiteurs de ce grand festival de la démocratie. Les leaders des 8 partis représentés au Parlement vont se succéder sur la grande scène, pendant 8 jours, s'adressant au même public. Le thème dominant cette année est la politique migratoire. Le gouvernement social-démocrate de Stefan Löfven vient de durcir les conditions de séjour en Suède pour contrer la montée de l'extrême droite. Mais pour le rédacteur en chef politique du quotidien Aftonbladet, Anders Schlingberg, ce n'était pas forcément une bonne idée.
Le résultat, c'est que le débat sur les retraites a été oublié, alors que le 1er mai, ils avaient promis d'augmenter les retraites. On ne parle plus que d'immigration. Le problème, c'est que quand on discute de la protection sociale pendant les élections, les sociaux-démocrates en profitent. Quand on discute de l'immigration, c'est en revanche l'extrême droite qui en profite.
Malgré ces dissensions, la présence de toutes les forces politiques lors de l'Almedalen est caractéristique de cette culture du consensus qui prévaut en Suède. Cette grande fête démocratique est née il y a 50 ans grâce au social-démocrate Olof Palme. Celui qui fut pendant plus de 10 ans Premier ministre de la Suède avant d'être assassiné en 1986 avait pris l'initiative de prononcer un premier discours dans le bourg de Visby où il passait ses vacances. Le politologue Joachim Palme, son fils, se souvient.
Mon père arrivait directement de sa maison de campagne et s'il faisait beau, il prenait moins le temps de se préparer. Du coup, le discours était moitié écrit, moitié improvisé. C'est comme ça que ça a commencé. Une assistance réduite, un contexte relax.
Depuis, les autres partis ont rejoint l'Almedalen, mais ils ne sont pas les seuls. Les syndicats, associations, ONG, lobbies ou entreprises sont aussi présents. Le programme de la semaine comporte plus de 4000 événements, discours, débats ou happenings, sans compter deux places publiques avec un micro où chacun peut s'exprimer. L'accès est libre et gratuit. On y parle de la société et de la politique suédoise, mais aussi du sort des adolescentes en Afghanistan, des conséquences du Brexit ou de la légalisation du cannabis. Père, lui, est plus intéressé par les prochaines élections.
J'écoute les discussions politiques et aussi les retransmissions à la radio, à la télé. Je sais pour qui je veux voter, mais je suis aussi intéressé par ce que disent les autres formations.
Ceux qui ont connu les débuts de l'Almedalen regrettent cependant la présence de plus en plus envahissante des médias et surtout des grandes entreprises, dont les stands fastueux envahissent le centre de Visby. Tous jurent être ici pour la politique, mais ils n'en oublient pas pour autant leurs intérêts. Martin Söderström représente Rexel, un poids lourd de l'énergie.
C'est un lieu de rencontre idéal pour les politiques, mais aussi pour les entreprises. Ici, on ne vend pas nos produits, mais on parle de façon plus générale du potentiel des énergies renouvelables. Que faut-il en penser? Comment le marché évolue-t-il? On organise 3 séminaires par jour. La plupart sont ouverts au public, mais bien sûr, il y a aussi des événements privés avec des hommes politiques et des représentants de notre branche.
Malgré ces dérives, l'Almedalen reste un événement très révélateur de la façon dont on envisage la démocratie en Suède, mais aussi au nord de l'Europe. Des rassemblements moins imposants, mais similaires, ont depuis vu le jour en Norvège, en Estonie, au Danemark, mais jamais plus au sud.
look how far we come now, 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 now. There's beauty in a unity we found. I'm ready, I'm ready. We still got a little way, but look how far we come now, 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 now.
Depuis le début de la Coupe du Monde en Russie, la rue Nikolskaya, en plein centre de Moscou, est devenue, malgré elle, le point de ralliement des supporters du monde entier. Jour et nuit, des milliers d'entre eux viennent y faire la fête et ils bravent, sans le savoir, des interdits sur lesquels les policiers russes ferment exceptionnellement les yeux. Paul Gogo s'y est rendu, reportage.
Magasins de luxe et petites boutiques de souvenirs aux prix excessifs ont pignon sur rue à Nikolskaya. Cette rue relie la célèbre place rouge à la Loubianka, le siège historique de la police politique. Mais aujourd'hui, et au moins jusqu'au 15 juillet, les supporters du monde entier y viennent plutôt pour célébrer le football, chanter leurs hymnes, sympathiser avec des Russes et s'enivrer sous les yeux de policiers étonnamment stoïques. Bertrand s'est planté au milieu de la foule avec son drapeau tricolore bleu-blanc-rouge sur l'épaule. Il enchaîne les selfies avec les supporters russes.
Franchement, c'est incroyable, c'était impensable. Tout le monde disait Moscou, ouais, c'est un petit peu bloqué par rapport à l'image qu'on peut avoir de Moscou. Et franchement, c'est incroyable. Tous les gens sont super open, c'est franchement incroyable. On a fait, on a passé une heure pour faire 300 mètres, tellement que les gens étaient là pour faire des photos avec nous. Franchement, c'est incroyable. C'est une très belle Coupe du Monde par rapport à tout ce qu'on peut dire. Et c'est cool, franchement, c'est cool.
La nuit, les supporters se regroupent, grimpent aux lampadaires, boivent des litres d'alcool et font la fête jusqu'au petit matin. Le tout sans aucun débordement. Inconcevable dans la Russie de 2018, ces actes étant d'ordinaire considérés comme du hooliganisme. Les rassemblements sont d'ailleurs interdits pendant le mondial, mais comme pour donner une bonne image de la Russie, les forces de l'ordre ferment les yeux et se prêtent même au jeu des selfies avec les touristes. Alexander, 27 ans, s'est installé verre à la main sur un banc de la rue Nikolskaya avec ses amis. À côté de lui, deux fûts de 5 litres de bière. Sans le mondial, le petit groupe aurait déjà fini au commissariat le plus proche.
You know what, for now?
Vous savez quoi? Je pense que la police ne va pas venir. En temps normal, elle interviendrait, c'est clair. C'est certain qu'elle viendrait. Mais aujourd'hui, il s'agit d'une des rues principales pour les supporters, donc tout le monde s'en fiche. Mais c'est une grande fête pour nous. Ça ne m'arrivera qu'une fois dans ma vie en Russie.
Plus loin, affublés de maillots aux couleurs de la Russie, Andrei et Denis font des allers-retours dans la rue. Ils ne se lassent pas de ces rencontres et de ces petits instants de folie qu'ils ne s'attendaient pas à voir en Russie. L'heure est en quelque sorte à l'amitié entre les peuples, comme le constatent les deux amis.
Nous n'avons jamais eu une telle ambiance en Russie, mais nous savons que ça ne durera pas et que ça ne se reproduira jamais.
C'est la première fois qu'on voit ça, il n'y a que des gens sympathiques et bienveillants qui viennent de partout dans le monde.
C'est une vraie fête, personne ne se bagarre. Nous passons notre temps à nous photographier entre nous.
On prend plein de photos, c'est une grande fête.
À la veille de la Coupe du Monde, une députée avait appelé les Russes à ne pas se laisser séduire par les supporters étrangers. En vain, dans la rue Nikolskaya, les numéros s'échangent par dizaines dans une atmosphère bon enfant. Et les plus populaires, ce sont les Brésiliens. André, Guilherme et Achila ont donc la cote. Les Russes défilent pour se faire photographier à leur côté.
Bro, record this. Hoje Maria, o mais querido. O Messi, ciao, Messi, ciao, Messi, ciao, ciao, ciao. Argentina, fica chorando, porque essa Copa eu vou ganhar.
Les gens sont très sympas, ils nous aident. On a été perdus le premier jour et beaucoup de gens nous ont aidés. On ne s'y attendait pas.
On dit que les Russes sont trop fermés, qu'ils ne parlent pas aux étrangers. Mais c'est totalement différent dans les faits. C'est incroyable. La Coupe du Monde devrait être organisée tous les ans.
Ce soir, Salim, Louis et Maxime sont en terrasse d'un bar. Ils ont enfilé un maillot d'une équipe bretonne à un supporter russe. À quelques mètres, des Iraniens chantent avec les passants. Plus loin, ce sont des Tunisiens qui s'époumonnent. Les trois Français tiennent des propos euphoriques.
Voilà, on se serre les bras avec des Mexicains, des Péruviens.
Aucune animosité.
Il y a des Turcs qui viennent nous embrasser et tout, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment super.
C'est génial. Il n'y a que la Coupe du Monde pour ça. Il n'y a que la Coupe du Monde pour ça.
Il n'y a aucun
autre vecteur que la Coupe du Monde pour ça.
C'est là où tu comprends que tout le monde peut s'entendre, en fait. Il n'y a pas de raison de faire la guerre, quoi, dans la vie. Mais...
Et qu'on peut tous
juste,
être heureux.
Juste une Coupe du Monde, ça réunit tout le monde. Non, mais franchement, c'est super.
À deux pas de la place rouge, souvent fermée aux supporters, de jeunes Russes chantonnent debout sur un banc, qu'ils finissent malencontreusement par casser devant des policiers indifférents. Si tous redoutent que ces instants de grâce disparaissent après le mondial, ils comptent bien occuper la rue, au moins jusqu'à la finale.
Et grande absente de ce mondial, l'Italie qui n'a même pas réussi à se qualifier pour la compétition. Pourtant, le foot continue de passionner les foules. Alors, les supporters cherchent des solutions de repli ou ils philosophent sur les bienfaits de cette défaite vécue depuis des mois comme une tragédie, Cécile Debarge.
Il aura fallu attendre les quarts de finale de cette Coupe du Monde de football pour lire ce constat plutôt optimiste. Du point de vue sportif et économique, la non-qualification de l'Italie en Russie a été un drame, mais du point de vue social, c'est en réalité un énorme cadeau et pour le moins inattendu. Sous la plume d'Andrea Coccia, le journal de gauche L'Inchiesta décrit avec beaucoup d'autodérision ces mondiaux de foot sans l'Italie. Entre l'élimination de l'Allemagne, leurs meilleurs ennemis, l'élimination au tir au but de l'Espagne, leur grand concurrent, on savoure comme jamais cette compétition, c'est une sensation de libération, conclut le journaliste. Pas de nationalisme exacerbé, pas de rage ou de stress avant un match crucial, bref, aucun ingrédient prêt à alimenter le feuilleton national, parfois proche de l'hystérie quand on parle football en Italie. Et pour ceux qui ne digèrent toujours pas la pilule, la presse italienne s'est mise à dénicher les plus improbables compétitions mondiales pour se remonter le moral. La chaîne privée Sky Sport a inventé une compétition parallèle en faisant voter les internautes pour élire les plus belles femmes de footballeurs des équipes en compétition. Et puis il y a cette nouvelle qui serait probablement passée inaperçue dans un autre contexte, mais l'équipe de football féminin d'Italie s'est qualifiée pour les mondiaux l'année prochaine en France. Leur dernière qualification pour la compétition remontait à 20 ans. Enfin, la palme du mondial le plus improbable dénichée par la presse italienne revient sans aucun doute à ce journaliste qui demande. Et si les mondiaux se déplaçaient des terrains de foot à la table, quel pays serait au sommet pour la nourriture produite de manière durable? Est-ce que l'Italie serait vraiment exclue du podium mondial? Eh bien, la réponse évidemment est non. Dans une étude publiée par le Centre Alimentation et Nutrition de la Fondation Barilla, réalisée entre 34 pays, les Italiens sont admis d'office, se félicite le journaliste, et l'Italie est la championne incontestée en agriculture durable, une manière de renouer avec l'une des autres passions italiennes, la table. Pocoleras la mi con suegra, pocoleras la mi con suegra, pocoleras a la vuestra hija la querida.
Vous l'avez compris, cela n'a plus rien à voir avec le foot. Dimanche prochain, comme tous les 8 juillet, la communauté juive de Sarajevo fait aussi la fête et tous les habitants de la capitale bosnienne sont invités au programme dégustation de spécialités séfarades et des chansons ladino pour conserver ce qui reste de la mémoire d'une communauté menacée de disparition. Laurent Gélin.
Sarajevo a longtemps été surnommée la Jérusalem des Balkans et malgré le terrible siège qui a ensanglanté la capitale de la Bosnie-Herzégovine entre 1992 et 1995, il reste quelque chose de l'extraordinaire diversité communautaire et religieuse qui a longtemps fait la richesse de la cité. Le 8 juillet, ce sont les juifs de la ville qui invitent leurs concitoyens près de la synagogue pour déguster des spécialités séfarades et des gâteaux de fête et pour écouter les chansons de leurs ancêtres. Au début du XXe siècle, près de 10 000 juifs vivaient à Sarajevo, descendants des artisans et des marchands expulsés d'Espagne en 1492 et qui s'étaient réfugiés dans l'Empire ottoman. Après les massacres de la Seconde Guerre mondiale et la vague d'émigration des années 1950, ils ne sont aujourd'hui plus que 500, mais l'association Benevolentia continue de se battre pour faire vibrer le cœur de la communauté. Créée en 1892, l'organisation propose des cours d'histoire, organise des ateliers et des rencontres. Durant le dernier siège, elle avait réussi à évacuer de la ville assiégée près de 2500 personnes, des juifs mais aussi beaucoup de musulmans, et elle distribuait des médicaments aux plus démunis. Aujourd'hui, presque plus personne ne parle le ladino à Sarajevo, cette langue judéo-hispanique de la péninsule ibérique, et les plus jeunes choisissent souvent de partir en Israël. Mais ceux qui restent ont toujours à cœur de prouver que les Juifs de Bosnie-Herzégovine sont toujours vivants.
Just try it. Play the record over again right now.
C'est vendredi, bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Alors aujourd'hui, vous donnez des nouvelles d'un de vos Gallois préférés.
Le retour aujourd'hui du chanteur gallois Gruff Rhys, que l'on connaît depuis un peu plus de 20 ans, d'abord au sein du groupe Super Furry Animals, et puis en solo, au fil d'albums qu'il peut chanter en anglais comme en gallois, selon l'inspiration du moment. Et celle qui a commandé l'écriture de ses nouvelles chansons est politique, puisque ce cinquième album a été composé en 2016, au moment du Brexit et de l'élection de Donald Trump, deux événements qui ont alimenté sa réflexion sur l'état calamiteux du débat public. Et pour habiller tout cela, Gruff Rhys a fait appel au chef d'orchestre Stephen McNeff, qui a confié cette dizaine de chansons aux bons soins du BBC National Orchestra of Wales. Le résultat est somptueux.
Termine cette semaine avec le gallois Gruff Rhys et son titre Limited Edition Parts, extrait de son dernier album. Toute cette semaine, Françoise Grelot était bien sûr aux manettes et à la réalisation. Rendez-vous sur RFI.fr et sur notre page Facebook pour suivre Accent d'Europe.
Hovercrafting over the overlord.